Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, les Orechem Tohim Shanim Le'aimim, nous poursuivons notre lecture du livre lumineux, extraordinaire, Zera Shimshon. Nous sommes Parashat Lech Lecha, au Darush Vav. Le Midrash dit, Vayomer Hachem El Avram, HaKadosh Baruch Hu parle à Avram, lui dit, quitte, Lech Lecha Me'artecha, quitte ton pays. La maison où tu es né, du lieu de ta naissance, de la maison où tu es de ton père, et pars vers le pays que je t'indiquerai. Le Midrash dit, Rabbi Yitzhak patah. Rabbi Yitzhak ouvrit son propos et interprète le verset des psaumes 45-11. Shim'i bat ur'i ve'ati ozner. Veshiché ammer ou bet avir. Écoute, fille, et observe, tends ton oreille, et oublie ton peuple et la maison de ton père. Rabbi Yitzhak dit, cela ressemble, c'est un machal, à un voyageur qui allait de lieu en lieu, et il vit un palais en flamme, bira doleket, et il se dit, est-ce possible que ce palais n'ait point de maître? C'est alors que le maître des lieux se dévoila à lui. Comme dit le Midrash, Itzitz ala ba'al abira. Et il lui dit, je suis le seigneur de cette demeure. De même pour Abraham, qui s'est dit, est-il possible que le monde n'ait pas de gouvernant, que le monde soit livré à lui-même? HaKadosh Baruch Hu se dévoila à lui, il lui dit, je suis le maître de ce monde. Et le psalmiste poursuit, et il dit, le roi désire ardemment ta beauté, car il est ton maître, prosterne-toi devant lui. Ça c'est le Midrash. Nous dit, là, il y a ici à faire des remarques. La première remarque, que signifie l'expression « bira doleket », un palais en flamme? Alors il peut signifier que d'odieux individus se sont permis d'y mettre le feu, sans que le maître des lieux intervienne pour les en empêcher, ni pour éteindre les flammes. La question se pose alors, est-ce que le monde est livré à lui-même? Est-ce que le propriétaire des lieux s'est retiré? Le deuxième sens est que le palais est illuminé avec harmonie et intelligence, de sorte que ceux qui l'observent et tout le loisir d'en apprécier toute la beauté. C'est ça le pirouche, bira doleket, un palais illuminé. Le sens doleket peut avoir deux explications. Ou bien il y a le feu, nidlak, dleka, ou bien c'est illuminé. Le monde est agencé avec une telle précision. Il contient une telle intelligence. Il est un ravissement pour les yeux. Est-il envisageable qu'il ne possède pas de maître? Qui l'a construit, donc, et qui le dirige? C'est pas possible. Le mot, après il est dit que « Itzitz ala ba'alabira », le propriétaire des lieux a jeté un œil sur lui. Le mot « Itzitz ala », généralement traduit par « observer rapidement », « jeter un œil furtivement ». Ici, il faut le comprendre que c'est Hachem qui permet à Avraham de l'apercevoir. Le Zera Shimshon ramène ici une question du Yafet Tohar. Le Yafet Tohar est un immense commentaire sur le Midrash Rabbah. Dans les éditions du Midrash Rabbah que nous possédons, il y en a que le Yafet Tohar n'est pas complet. C'est l'éditeur, il y a plusieurs centaines d'années, a pris quelques passages du Yafet Tohar. Mais ce commentaire-là est un commentaire immense de Rav Shmuel Yafé Ashkenazi, qui était grand rabbin de Constantinople au XVIe siècle. Alors on dit, le Rav, Yafé Tohar, la parabole que nous rapporte Rabbi Yitzhak, elle semble inutile. Il était largement suffisant de nous dire qu'Abraham s'étonne que le monde soit sans dirigeant. De même pour la réponse, quand il lui dit « je suis le maître de ces lieux », et il lui dit, je suis le maître de ce monde. Il était suffisant de dire, je suis celui qui dirige. Puisque puisque c'était ça la question que se posait Abraham. Alors le Zera Shimshon propose de justifier la parabole de Rabbi Tzhak, car l'intention d'Abraham était de contrer l'idée de ceux qui disaient à son époque que le monde tel qu'il est a toujours existé. Kadmut ha'olam, le Rambam rapporte que cette idée, cette théorie, était celle d'Aristote. Abraham analyse cette théorie et se dit que cela aurait pu être vrai si le monde n'était pas ordonné, s'il n'était pas agencé avec des règles. Mais nous constatons que la création est loin d'être désordonnée. Nous observons que les astres suivent une trajectoire bien établie, que les saisons suivent des règles, et que l'ensemble des éléments de la création sont gérés avec intelligence. Force de constater que les règles et l'ordre des choses ne se fait pas de manière hasardeuse, par hasard. Mais c'est incontestable qu'ils traduisent la volonté évidente de celui qui les a fixés. Afin d'arriver à convaincre ses contemporains, il utilisa la parabole de ce voyageur qui découvre un magnifique palais illuminé avec goût, de sorte que tous puissent en apprécier le grand raffinement, les décorations, les joyaux de toutes sortes qui l'ornent et qui le parent. Un véritable ravissement pour les visiteurs qui se délectent avec enchantement en découvrant toutes ces beautés. Quel bonheur, quelle exaltation de voir autant de faces et de perfections. Que de splendeur qui s'offre ainsi à notre vue. Si le palais avait été délaissé et abandonné par ses propriétaires, il n'aurait sûrement pas été illuminé de cette manière. C'est alors que le maître des lieux se montra à lui. Si ce magnifique palais a un propriétaire, il est donc évident qu'il en a aussi un dirigeant. Ce propriétaire-là est celui qui le dirige, qui le gouverne. C'est ainsi qu'Abraham essaie de persuader les autres de ceux qui le côtoyaient de cette théorie. Et il a établi ainsi les bases et inculqué les bases de l'évidence, l'aïmouna. Toutefois, Abraham ne le connaissait pas encore, ce gouverneur, ce propriétaire, ce Dieu créateur. Lui-même n'avait jamais eu de maître. Il n'avait pas eu non plus de compagnon d'études. Il faut voir ce qu'en dit le Rambam. Il dit qu'à l'âge de 3 ans, Abraham s'interrogea, commença à yameshoter de Bedato. Il s'interrogea sur la création. Il est seul dans ses réflexions. Il ne peut confier ses doutes ni ses idées à personne, il n'a pas avec qui parler. Cependant, il parvient de lui-même à découvrir la vérité et à établir les bases de la croyance en Dieu. À l'âge de 48 ans, les choses sont parfaitement établies pour lui avec certitude. C'est alors que Akash Bokhu se montra à lui. Il convient cependant de comprendre le lien entre les versets des psaumes. Écoute, Shimeibat, écoute, fille. Et observe, tends ton oreille, et n'oublie pas ton peuple, et oublie ton peuple, et la maison de ton père, et celui de notre paracha, comme il est dit, quel lien y a-t-il entre ces deux versets, entre le verset de la Torah et le drouche de Rabbi Tzhak dans le Midrash, qui ramène le verset des psaumes? Nous pouvons répondre que le psaume 45 est entièrement consacré à Abraham. C'est ainsi que nombre de ces versets seront interprétés dans beaucoup de textes des Chachamim en s'appliquant à Abraham. Le Zera Shimshon choisit une voie nouvelle, inédite pour commenter ce psaume, afin de répondre à la question du départ. Il dit « Rahash libi davar tov ». Donc le psaume commence « Rahash libi davar tov ». « Omar ani ma'asai la meler » « De mon cœur prend forme un beau dessin ». Je dis vouloir destiner mes actes au roi. Les chonis et sofer maïr. Ma langue est comme une plume d'un habile scribe. Au début, Abraham n'avait pas de maître. Les idées se bousculaient dans son esprit. Et dans son empressement, il se dit, le monde est sans gouvernance. C'est alors qu'il pensa se prosterner au soleil. Le soir venu, il le vit disparaître. Il se dit, celui-là n'est pas le maître de ce monde. Il fit de même pour la lune, puis pour le feu. Et toutes les forces de ce monde, de la nature, jusqu'au moment où Hachem se dévoila et lui dit « Je suis celui que tu cherches ». C'est-à-dire que depuis le début, Abraham ne désire se prosterner qu'au maître absolu de ce monde uniquement à lui. C'est alors qu'il entreprend de faire connaître le roi au plus grand nombre. Il ne gardera pas cela pour lui, loin de lui l'orgueil d'être le seul à connaître Dieu. Il utilise son éloquence, sa verbe, sa dextérité comme une plume entre les mains expertes du scribe. Le psalmiste compare la parole d'Abraham à l'écriture. En effet, c'est par l'écrit que l'on peut atteindre le plus grand nombre. De plus, même celui qui entend le discours risque de ne pas en saisir toutes les finesses et d'en oublier une partie. Les écrits exigent une clarté, une rigueur, une minutie, une exactitude, alors que l'oral admet l'approximation et l'imprécision. Abraham tient un discours qui possède toutes les qualités de l'écriture. L'impact des paroles est éphémère alors que les écrits restent. Les résultats ne se font pas attendre. C'est alors que des myriades d'individus que l'on compte, des adeptes d'Abraham. C'est alors qu'Hachem fait son éloge. Et au verset suivant, il est dit « Yofiafita mi bene Adam » Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Utsakhem bisiftotecha, la grâce est déversée sur tes lèvres. Alken berachecha Elohim le'olam. C'est pour ça que l'Éternel, le Seigneur, t'a béni à jamais. Tu es doublement beau et agréable. On remarque que le mot yof yafit, il s'écrit deux fois yud pe yud pe. Le mot yafé est double. Abraham atteint les sommets de la splendeur. Celle-ci lui est octroyée par les autres hommes parce qu'il s'en est préoccupé. Il ne garde pas la chokhma pour lui. Ce qu'il dévoile, il veut le partager. Alors il faut lire le verset ainsi. Tu es éblouissant de beauté qui te vient des fils de l'homme. On peut aussi dire, mi bene Adam fait référence à Adam. Adam Arishon. Abraham est considéré comme son fils. Hachem a choisi Abraham comme père de l'humanité en sachant que s'il faute, Abraham pourra réparer le mal. Mais si Abraham avait été le premier homme et avait fauté, aucun homme n'aurait pu réparer le monde. Personne n'aurait pu venir après Abraham pour réparer. Les paroles qui se répandent par ses lèvres trouvent grâce aux yeux des hommes. Ainsi que le rapportent nos maîtres dans le Midrash. Terar, le père d'Abraham, faisait le commerce des idoles. Une fois, il confia à son fils le soin de s'occuper de la vente. Le premier client entre et demande une bonne idole. C'est-à-dire un remède, il a un problème, et il veut un remède pour solutionner son problème. Un remède efficace. Et Abraham lui demande son âge. Et l'homme lui répond, il a 50 ans. C'est alors qu'Abraham s'écrie à pauvre de lui. Celui qui a 50 ans se prosterne à une idole qui n'a pas un jour. En entendant ces paroles, l'homme plein de honte prend la fuite sans demander son reste. À la fin de la journée, le père Terah rentre au magasin, il tire la caisse et il voit qu'il n'y a rien dans la caisse. La recette est nulle. Terah dit à son fils, « Tu es en train de détruire mon gagne-pain. Comment vais-je subvenir aux besoins de la famille ?» C'est pour cela que le verset se conclut par l'assurance que la bénédiction et l'abondance lui seront attribuées à jamais. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas tenu compte de pouvoir se nourrir à travers des fausses croyances. Il dit l'essentiel c'est d'être identique à soi-même. Si c'est ça la vérité, alors on ne tient pas compte. La parnassa, elle viendra d'ailleurs. Et c'est à Kadosh Baruch Hu qui la lui donnera. Après, il lui dit Hagor harbecha alierer gibor odecha vaadarecha. Il lui dit, le pasouk dit, saint ton glaive sur le flanc, toi le valeureux, c'est ta parure et ta gloire. Gloire à toi, par ta bravoure, tu chevauches ta monture pour défendre la vérité. L'humilité et la droiture te guident, les redoutables exploits de ta droite. Tes flèches sont aiguisées, les nations tomberont sous ta coupe. Belev oive ammeler. Elles atteignent les ennemis du roi en plein cœur. C'est-à-dire que les coups qu'assène Abraham atteignent les ennemis d'Akadosh Baruch Hu au cœur et il est détruit. Alors, quel est le sens de ces psukim? Ces versets font référence à la guerre des rois, les quatre rois contre les cinq rois. Le Rav Sifte Cohen, un commentaire, Rabbi Mordechai Cohen de Tzvat, il a vécu au XVIe siècle, un grand kabbaliste, commentaire lui-même kabbalistique. S'étonne comment Abraham, à lui seul, uniquement accompagné de son serviteur Eliezer, alla combattre quatre rois puissants et redoutables qui avaient déjà mis en déroute une coalition de 5 armées. Attendait-il un miracle? Voilà que les miracles Hachem fait prennent des formes naturelles. L'intention des 4 rois en capturant Lot était de détruire cette étincelle qui était enfouie en lui. Lot contient en lui la Neshama de Neshamot. La Neshama de Ruth à Moavia et de Naama à Ammonite. Et c'est de ces deux femmes que va descendre le Mashiach, comme nous allons le voir. Ainsi que il y a aussi dans Lot, nous dire le Rava Ari, la Neshama de Rava, le fameux Amora. En effet, observons les versets avec attention, que disent-ils? Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Amora, ainsi que tout leur vivre. Puis ils se retirèrent. Le pasouk suivant dit, ils capturèrent Lot et tous ses biens, le fils du frère d'Abraham, et ils se retirèrent. Alors ici, il y a une question qui se pose. Pourquoi avoir précisé qu'ils prirent tous les biens de Lot, alors qu'il est dit plus haut qu'ils s'emparèrent de tout ce qu'il y avait dans la ville de Sodome? De plus, cela n'a pas de conséquence sur la réaction d'Abraham. Va-t-il poursuivre les assaillants avec plus de hargne et de détermination parce qu'ils ont pris les biens de Lot? Voilà qu'au verset 14, il est juste dit, Abraham entendit que son parent a été fait prisonnier, il arma ses fidèles et il est poursuivi jusqu'à Dan. Cependant, il est dit plus loin qu'Abraham reprit tout le butin, il ramena Lot et tous ses biens. Il sent bien que ces guerres ne soient pas juste une guerre conventionnelle, mais bien plus, il s'agit d'une guerre entre les puissances lumineuses et celles de l'obscurité. Koah à Kedusha contre le Koah Atuma. Le butin et les richesses que les vainqueurs emportent sont les âmes saintes, Neshamot Kedoshot, Nitzotot à Kedusha, qui doivent jaillir de Lot, comme nous l'avons dit. Lot sera sauvé de la destruction de Sodome avec ses deux fils, avec ses deux filles. Elles pensent alors qu'Hachem a détruit le monde entier. Elles se disent que le seul homme vivant est leur père. Il est l'unique moyen de reconstruire le monde et de laisser une descendance. C'est pour cela qu'elles vont le faire boire. Lot, inconscient, aura deux enfants avec ses deux filles qu'ils plus tard donneront deux peuples, Ammon et Moab. De ces deux peuples-là sortiront deux femmes, Ruth et Naama, comme nous l'avons dit, desquelles se construira la descendance de David et du Mashiach. En effet, Rabbeinu Ari dévoile que l'âme de Rava est mentionnée dans les premières lettres des mots. Rechush ben Ahi Avram. Donc, il y a ici, qu'est-ce qui a marqué? Avram, il est coupé en deux. Av, Alef, Betre, c'est Ever. Et les rachetés votes, les premières lettres du mot Rechush ben Ahi, c'est Resh, Bet, Alef, fait référence à Rava. De sorte qu'Avram ne se préoccupe pas vraiment des richesses matérielles de l'autre, mais plutôt des richesses spirituelles, des étincelles de lumière éparse qu'il s'agit de récupérer. Rabbeinu Ari dit que la Neshama de Rava, qui est le compagnon d'études de Abaye, était inclus dans celle de Naama à Ammonite. Elle se convertira longtemps plus tard, longtemps après, et elle sera l'épouse de Shlomo Meller. Et leur fils, Rehavam, sera le successeur de son père, et c'est de lui que descend le Mashiach. Le Yalkut Reuveni de Rabbi Avraham Reuven à Cohen de Prague au 17e, souligne qu'à cette période, Avraham n'était pas encore circoncis. Il utilise ses mauvaises énergies encore contenues en lui pour combattre et arriver à soumettre les forces obscures. Il en va de même des forces négatives, racines de Ishmaël et de Esav, qui seront plus tard le Chor et le Hamor, qui seront plus tard expulsés et rejetés de la descendance d'Abraham, de sorte que ce combat et cette victoire ne peuvent s'obtenir qu'en utilisant le mal contre le mal, comme une autodestruction. C'est le sens du verset qui dit Saint englève sur le flanc. Le flanc, il fait ici référence, comme on le voit plus tard, quand Eliezer, Abraham va faire jurer Eliezer. Quand il envoie en mission pour trouver une épouse à Yitzhak, il le fait jurer sur la hanche, fait référence au côté, à la Brit Mila, bien qu'elle ne soit pas encore réalisée. Avraham semble alors, avec les forces de la droite, Koach Hayamin, c'est la bonté, la sainteté, et les forces de la gauche, le Orla, qui se sent la parure et la gloire qui a marqué dans le verset. Par cette victoire, il permet à David de monter sur le trône, c'est le sens de la, par ta gloire, tu chevauches ta monture. Ça fait référence à la royauté. Tes flèches sont aiguisées. Pourquoi est-il besoin de le préciser? Pour nous apprendre qu'elles le sont doublement. Elles n'atteignent pas uniquement le corps des ennemis, mais elles pénètrent bien plus profondément en eux pour détruire les forces obscures de la clipa. Comme le dit le verset, les nations tombent sous tes coups. Elles se courbent sous ton autorité. C'est-à-dire que non seulement les ennemis tombent à terre, sans vie, mais leurs énergies et leur puissance se courbent. Elles sont soumises à la Kedusha. Hachem, Kadosh Baruch Hu encourage Avraham, il lui dit, tu n'as rien à craindre, Avraham. Avraham est préoccupé, il s'inquiète de devoir tuer des hommes. Peut-être que l'un d'entre eux engendra un juste. Hachem apaise ses craintes et lui garantit que tous les hommes qu'il sera dans l'obligation de tuer sont les ennemis du roi. C'est-à-dire qu'ils ne contiennent aucune étincelle de lumière. Aucun de leurs descendants ne se rapprochera de la vérité et de la sainteté. Comme on retrouve la même idée quand Moshe Rabbeinu a abattu l'Égyptien qui frappait le Juif. Nous retrouvons le même souci, donc c'est ce que nous avons dit ici. Il lui dit, Vayefen Kovacho, il a regardé à droite et à gauche, Vayar ki en ish. En ish, Rachin dit, qui va sortir de cet homme-là. Kis acha Elohim olam vaed, ton trône, Seigneur, est éternel. Le sceptre de droiture est le sceptre de ta royauté. Kis echa Elohim olam vaed, shevet mishor, shevet malchutecha. Que signifie ce verset? Quand Avraham a été sauvé de la fournaise ardente de Ur-Kasdim, dans laquelle il a été jeté, nombreux en doutaient. Uniquement ceux qui avaient assisté à l'événement y croyaient. Pendant la guerre des rois, le souverain de Sodome est tombé dans un puits de glaise. Il lui était impossible d'en sortir. Lorsqu'Avraham passa devant ce puits, il se produisit un miracle. Le roi de Sodome sortit de son trou comme aspiré, comme aimanté par la seule présence d'Avraham. Une grande assistance était témoin de cet événement prodigieux. Tous constatèrent que la présence d'Avraham avait agi comme un aimant sur le roi de Sodom. C'est cet événement qui établira la véracité du salut d'Avraham de la fournaise. Comme Rachid le précise dans la paracha, c'est alors que se grandit la gloire du trône du Tout-Puissant aux yeux des hommes. À présent, tous savent que le Seigneur agit en son monde comme il le veut, selon sa volonté, que le monde n'est pas livré à lui-même. Bien que le roi de Sodom ait sauvé et a été sauvé miraculeusement, Hachem ne veut plus de lui comme souverain. En effet, nos maîtres soulignent qu'Avraham se trouve dans l'obligation de lui rendre tous les hommes qui étaient prisonniers, ainsi que toutes les richesses de Sodom. De ce fait, Avraham sera sanctionné pour avoir éloigné ses hommes de la foi, de la sainteté, comme cela est rapporté dans la Gemara Nedarim 32a. Bil'adai, comme il est dit, Bil'adai, Rak, Asher, Achlo, Anéarim. Là aussi, il est dit. Alors qu'est-ce que je vais récupérer, il lui dit. Je te donne tout, je te rends tout, ce que tout. Seulement ce que en consommé, je récupérais ce qu'on consommait, ce qui était avec moi. Alors il dit le pasuk Bil Adai Rak Asher, c'est les rachetébot de Rava. Là aussi, il fait allusion à Rava. Avraham lui-même ne prend rien des biens du roi de Sodome. Uniquement les jeunes qui ont combattu à ses côtés prennent leur dû. Le roi de Sodome constate qu'Avraham considérait le butin comme son bien dûment acquis. En effet, il était en train d'en prélever le maaser. C'est là que le roi s'adresse à lui en lui demandant de lui rendre les prisonniers de guerre. Son intention était bien sûr de récupérer au moins une partie des richesses. Le roi de Sodome se comporte avec arrogance. Plus rien ne lui appartient, sa propre vie la doit à Avraham. Comment ose-t-il demander les hommes et concéder les biens à Avraham? Il laisse supposer qu'Avraham n'est préoccupé que par les biens matériels. C'est pour cela qu'Avraham lui cède les richesses et les captifs. Il fait la démonstration que le serviteur du Kadosh Baruch Hu qu'il est ne s'intéresse pas aux richesses ni au pouvoir. Cela, il ne le fait pas pour lui-même, ni pour prouver sa probité, mais uniquement pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. En effet, si le roi de Sédom peut jeter le doute sur l'intégrité d'Abraham et sur sa probité, sans aucun doute, cela rejaillira sur Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Abraham comprend parfaitement la sournoiserie du roi de Sédom. Il sait aussi que lui rendre les captifs est une faute, que nos maîtres lui reprocheront. Cependant, il préfère que les reproches lui soient adressés à lui et que rien de négatif ne rejaillisse sur Hachem et sa Torah. Et c'est comme ça qu'on répond à la question qui a été soulevée. C'est pour cette raison que le sauvetage du roi de Sodome est mentionné dans ce verset des psaumes, par l'attribut de rigueur Elohim, qui fait référence à cette contrariété qu'Hachem a de le sauver. Avta tzedek vetisna resha. Tu aimes la justice et tu as l'iniquité en dégoût. Alkar mishkacha Elohim Elohecha. C'est pour cela que le Seigneur ton Dieu t'a oint de l'huile d'allégresse, d'onction. Shemen sason mehaberecha. Il t'a choisi parmi tous les autres de tes compagnons. Tous se réjouiront de ce choix. Que ça signifie quoi? Malki tzedek, il est le roi de Yerushalayim. Il sort à la rencontre d'Abraham et il lui apporte du pain et du vin. Il était Cohen, Veo Cohen, l'Elion, il était Cohen Gadol. Il s'agit de Shem Ben Noir, qui remplissait la fonction de Cohen Gadol. Il était le roi de la ville de Jérusalem. Il est apprécié de Dieu et donc d'Abraham, qui lui donne le maaser de tout le butin et de l'ensemble de ses biens propres, de ses propres biens, il lui donne. Alors il lui dit, tu détestes l'iniquité et la ruse du roi de Sodome. Tous ses biens en sont pollués, et c'est pourquoi Abraham refuse de les garder. Il ne prend rien, ne serait-ce qu'un lacet de chaussures. En effet, les biens que les hommes amassent sont à leur image. Le juste ne doit en aucune façon recevoir ou prendre des biens des individus qui sont immergés dans leur égoïsme, de ceux qui n'ont d'autres soucis que le pouvoir et leur richesse. On retrouve ce principe dans Yosef. Quand Yosef demande à l'échanson, fais-moi sortir de là, et que Akadosh Baruch Hu fait que l'échanson oublie. Pourquoi? C'est pas une sanction sur Yosef, c'est comme si que Akadosh Baruch Hu va préserver Yosef de recevoir de l'échanson quoi que ce soit. Cela ne doit pas être compris comme une punition pour Yosef, car il a agi conformément au principe. En son prime à la naissance, l'échanson se rappellera de lui pour son propre intérêt. Il ne le fait pas pour rendre service à Yosef. Il en est incapable. Faire du bien à autrui n'est pas sa philosophie de vie. De sorte que Yosef a été préservé de recevoir une aide d'un homme égoïste. Un homme mauvais. Cette aide aurait été comme un venin inoculé à Yosef. À présent, le Zera Shimshon va interpréter l'onction citée dans ce verset des psaumes comme étant celle du Kohen Gadol et non pas celle du roi. Quand Malkisédek sort à la rencontre d'Abraham avec le pain et le vin, il le bénit, il dit, Baruch Abraham le'el Elyon, béni soit Abraham de la part du Dieu suprême. On sait Shamaï Barès. Ou Baruch El Elyon, Asher Migen Tzarecha Beyadecha. Et béni soit le Dieu suprême qui a livré tes ennemis entre tes mains. La Gemara va faire ici la remarque que Malkisédek fait une erreur. Il fait une erreur qui va lui coûter, il va en perdre sa fonction. En effet, il a béni Abraham en premier et relègue la bénédiction à Kadosh Baruch Hu en second. Jusqu'à cet instant, Malkitzedek est le Kohen Gadol du Dieu suprême, de El Elyon. Mais à présent, cette dignité lui sera retirée et octroyée à Abraham. Abraham lui fait remarquer, est-ce convenable de faire précéder la bénédiction du serviteur avant celle de son maître? Cette remarque aussi, elle est mentionnée dans la Gemara Nedarim 32b. Il est de notre devoir d'essayer de comprendre la démarche de Shem, qui choisit volontairement de bénir Abraham en premier. Avant qu'Abraham n'intervienne dans l'histoire de l'humanité, le concept que les hommes avaient de Dieu était celui d'un Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, qui s'est retiré dans les plus hauts sommets des mondes. C'est pour cette raison que les hommes ne pouvaient croire qu'Abraham était sorti sain et sauf de la fournaise. C'est Abraham qui innove l'idée d'un Dieu maître de la terre qui intervient dans son monde. Comme le dit la Gemara dans Brachot, qu'Abraham est le premier à avoir proclamé que Dieu est le maître, l'okaro Adon Hacheba Abraham. C'est-à-dire qu'il est maître, qu'il agit, que tout dépend de Hachem. Et c'est ça le sens de la démarche de Malkitzedek, qui transmet le service divin à Abraham. À présent, le Kohen Gadol ne peut être autre que lui, de sorte que nous pouvons comprendre que Melchisédek n'a pas été destitué de sa fonction à cause d'une erreur ou d'une faute, mais qu'il y a une transmission volontaire de sa part. Cette personne, cette fonction, pénétrant dès lors dans une nouvelle dimension. Alors le psaume continue. Mor ve'alot ketziot kol bigdotera min aivra shen menish semahocha. Myrte, donc c'est l'encens. Parfume tes vêtements. Des palais d'ivoire, la joie te parvient. Le parfum des vêtements fait référence à la mitzvah du tzitzit qui orne et les embaume. Tu as refusé de prendre même un fil de chaussure de ces hommes. Je donnerai à tes enfants un fil qui embellira leurs vêtements. Le palais d'ivoire envoie au Mishkan et au sanctuaire. C'est le lieu d'où on atteignait l'extase et l'esprit, la prophétie et l'esprit divin par la joie qui enveloppait ceux qui étaient présents, comme on le voit dans la fête de Sukkot. Les filles des rois, les princesses sont tes favorites. La reine se tient à ta droite. Elle est parée des joyaux de Ophir. Quand il sera grandi, il fut sevré. Abraham fit un grand festin en ce jour. Il invita tous les puissants de cette génération et leurs épouses. Ils y vinrent avec leurs nourrissons. Quand il fallut les allaiter, c'est Sarah qui s'en chargea. Ce qui fit taire toutes les rumeurs qui circulaient, prétendant qu'Itzhak n'était pas le fils de Sarah. La place de tes pères sera occupée par tes fils. Tu les placeras comme des princes sur tout le pays. Israël ressemblait trait pour trait à Abraham. Ceux qui recherchaient la compagnie d'Abraham l'a trouvé en approchant Israël. De même qu'avec Abraham, on ressentait la présence de l'Éternel qui ne le quittait jamais. Ainsi, cela a été pour Israël. Ça veut dire que ce qu'il y avait chez Abraham, chez Israël, on retrouvait chez Abraham, etc. Nos maîtres disent que les pères sont eux-mêmes le Torah, Avotem, Hem, Amerkava. Cela signifie que leur volonté, leurs désirs, leurs aspirations, toute la raison d'être de leur être se résume à accomplir la seule volonté d'Hachem. Et cela à chaque instant de leur vie. De sorte qu'Abraham n'a plus de volonté propre ou de désir personnel, d'ambition. Il n'y a chez lui qu'une facette publique de son personnage quand il sert Hachem. Et puis, il n'y a pas une autre facette privée. Il n'a plus d'Abraham le concept de vie privée. Il n'existe pas chez lui. En même temps qu'individu anonyme, mais uniquement en tant que personnage, étalon, référence du serviteur de Dieu. Cette dimension nouvelle d'Abraham prend son essor dès le début de l'injonction. Comme il le dit, Lech Lecha, tu pars de là pour devenir toi-même. Lech Lecha, tu vas pour être Lecha, pour être toi-même. Tu quittes tout ce qui compose ton monde pour pénétrer dans celui d'Hachem. Ici commence l'extraordinaire ascension d'Abraham vers les plus hauts sommets. Il devient alors à lui tout seul le clan d'Israël, la globalité d'Israël. Chacun de ses actes comporte une profondeur insoupçonnée qui influence la destinée d'Israël jusqu'à la fin des temps. Le rôle que nous, ses enfants, nous devons endosser est celui de marcher et celui de marcher dans ses pas. Comme disent nos maîtres, chacun a le devoir de se dire « Quand donc mes actes arriveront à ceux d'Abraham, Isaac et Yaakov ?» Hayav Adam Lomar, Matai Yagio Maasai, les Maasai Avotai, Abraham, Isaac et Yaakov. Comme nous l'avons expliqué, il s'agit de donner à nos actions une dimension globale qui dépasse les limites restreintes de notre petite personne. C'est le sens que l'on peut donner à l'enseignement de nos sages. Maase avot siman labanim. L'action des pères est un signal, est un signe, est une image que les fils doivent adopter. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Cette étude est consacrée pour Leilou Nishmat, Rahama de Sikolet Batninet, Mordechai Barisa, Benyamin Yaakov Bar Zohar Itrout, Halo Yvette Batjuli, Gabriel Eliaou, Bar Penina, Zichonam le Haye Olam, pour la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Denis Sansvi Bar Dvora, Yosef Yoshua Bar Esther, Yehudit Jejeni Michel Bat Rahel, Haya Esther Bat Tzipora, Haim Bar Simi, Haim Bar Shlomit, Shalom Bar Simi, Shimon bar Josephine, Amram bar Yakut, Bracha bat Haya Figel, Shoshana bat Nicole Colette, Lala, Akadosh Baruch Hu leur octroie une bonne santé, une longue vie, Bracha Revacha Vasacha, Anna Ena Refanalem, tous ceux qui sont en attente, espèrent une Yeshua, une délivrance, quelle qu'elle soit, de la main de Dieu, par le mérite du Rav Zera Shimshon, Rabbi Shimshon, Haim Nahmani. Zichron et Lebracha. Et par le mérite de cette étude, la Kadosh Baruch Hu, une étude, si on se consacre à l'étude de ce livre de manière régulière, en fixant un temps régulier, une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois tous les 10 jours, peu importe, un temps régulier avec l'intention de donner satisfaction au maître qui n'a pas laissé d'enfant et qui implore qu'on étudie ses écrits, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu octroie à chacun la délivrance qu'il est en attente de recevoir. Baruch Adonai Eleh Olam, Amen ve Amen.